catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède. Oui, c'est parfaitement prêt.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Hola, hola, nous nous demandions qui allait prendre la parole pour débuter ce Canu Info du jeudi avec au micro jaune Laurent ce soir avec moi.
Et au micro vert Delphine.
Voilà, nous sommes sur des couleurs jaune et vert ce soir, il manque plus que le rouge et tout ça, enfin bon ça serait marrant. Nous sommes ensemble pour une petite émission jusqu'à 20h. Pas de petite cuillère hein, ce soir après nous, ça sera la semaine prochaine si j'ai tout suivi. Hein. Nous débuterons avec quelques petites remarques sur Monsieur Sarkozy. Nous en aurons encore d'autres sur des formes de pouvoir avec la preuve par quatre exemples avec Laurent. Je vous dis peut-être dans le désordre parce qu'on a décidé en dernière minute de changer un petit peu notre déroulé. Il est fort probable qu'ensuite j'enchaîne sur les profiteurs, c'est-à-dire sur les petits capitalistes et les entreprises. Nous aurons un sujet sur des accords avec la Mauritanie et l'Europe de la honte. Nous parlerons d'égalité des droits en Russie et en Tunisie. Nous aurons des sujets environnementaux et énergie ce soir avec évidemment une petite pointe nucléaire et puis d'autres sujets. Et nous irons aussi par exemple en Iran parler de la situation de militants écolos. Nous parlerons peut-être bien de Canal+, si on a le temps, mais surtout à un moment,
on essaiera
de parler de cinéma. Tu avais envie de parler ce soir du film de Nadine Labaki, Capharnaüm.
Voilà. Actrice, scénariste et
réalisatrice
de ce film libanais. Donc on va ouvrir avec Sarko, eh oui, le retour du fils de la vengeance de l'affaire Big Malion, puisque la cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui, on l'attendait avec impatience, le renvoi devant le tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy. On avait tous peur qu'il échappe à la justice et qu'il soit pas poursuivi dans cette affaire Big Malion. Et si, donc il va être poursuivi, bien évidemment, il a fait appel, mais c'est pas le plus important, hein, puisque c'est l'important, c'est déjà l'action symbolique, le fait qu'il a été coincé et qu'il va être obligé de s'expliquer devant la justice. Alors je rappelle les faits, hein, il est poursuivi, lui et tant d'autres, pour avoir dépassé les plafonds de dépenses de sa campagne électorale présidentielle. Alors il avait dépassé de beaucoup, hein, de 20 millions d'euros, quasiment le double, hein, de ce qu'il fallait faire. Donc lui, il est poursuivi, ils sont 13, je crois, il y a son directeur de campagne, Guillaume Lambert. Alors, a priori, ils avaient quand même été informés assez tôt, hein, qu'il y avait des dépassements de frais de campagne. Après, voilà, il y a tout le fait qu'ils soient remboursés, c'est de l'argent de l'État, du coup, faut pas. C'est ça, s'apparente à de la tricherie quand on dépasse, puisque tout le monde est à égalité. Dans le système qu'il y a aujourd'hui, dans la démocratie représentative française. Mais voilà, bon, ils font appel. 12 sur les 13 ont fait appel. Du coup, c'est la cour d'appel qui donnera son dernier avis en espérant que ce soit positif et que ça aille devant un vrai procès au pénal pour cette tricherie avancée. Et ça nous rappelle surtout que contrairement aux mensonges proférés par M. Mélenchon en début de semaine, les tricheurs et autres voleurs d'argent public, que sont notamment les politiques, eh ben, sont poursuivis de temps en temps devant la justice. Et oui, M. Mélenchon, qui a fait sa vierge effarouchée, n'est pas du tout le premier à être poursuivi pour des soupçons d'irrégularité, des soupçons de vol d'argent public. Il y a eu plein d'hommes politiques avant lui ou de femmes politiques. On se rappelle de Marine Le Pen et de quelques-uns de ses amis fachos qui sont poursuivis pour avoir volé de l'argent public européen. Alors le terme officiel, c'est pour des emplois fictifs au Parlement européen. Bien évidemment, il y a aussi les célébrissimes Balkany, moult affaires, dont déjà des condamnations, hein, puisque Le Pen en attend impatiemment un vrai procès avec des vraies condamnations. Les autres, Fillon, c'est en cours et ça semble mal parti pour lui. Dominique de Villepin en son temps, Christine Lagarde aussi, Julien Drey, Michel Alliot-Marie. Enfin, voilà, il y en a moult et moult. Donc oui, monsieur Mélenchon, vous n'êtes pas le seul homme politique soupçonné d'avoir fait des trucs illégaux et d'être poursuivi par la justice. Alors la justice agit rarement contre les puissants, ou pas assez dirons-nous, mais quelquefois elle s'en prend à ceux qui ont le pouvoir parce qu'ils abusent de ce pouvoir, ou ils trichent, et donc c'est ce qui est arrivé à vous comme à d'autres, et ce qui arrive, on le rappelle, à des centaines de personnes chaque année pour des raisons qui sont beaucoup moins importantes, hein, parce que le petit voleur, il se fait aussi, voilà, il a aussi tous ces problèmes-là. Et pourtant, des fois, il n'a pas volé grand-chose, alors que là, ça, on parle d'argent public, notamment pour Marine Le Pen. Et c'est des sommes énormes, hein, qui sont en jeu. Et c'est pas du petit vol à l'étalage, c'est du grand banditisme, hein, quasiment. Du grand banditisme politique. Attention, ce n'est pas la même chose. Et nous allons rester dans la politique avec une petite rubrique que j'ai appelée contre toutes les formes de pouvoir, un truc d'un peu d'anarchiste, puisque le pouvoir corrompt, le pouvoir détruit, on connaît bien, et je vais vous montrer la preuve par quatre exemples ridicules jusqu'où peut amener cette sensation de détenir un pouvoir. Et on va commencer par Alexandre Benalla, vous savez, le mec qui tabasse, qui se croit tout permis, qui se prend pour un flic alors qu'il n'en est pas un. Donc nouvel épisode, hein, dans cette affaire qui a touché monsieur Benalla, monsieur Collomb, monsieur Macron aussi. Le 5 octobre dernier, on l'a appris qu'aujourd'hui, l'ancien chargé de mission auprès de Macron, de l'Élysée, était interrogé par les juges pour son implication dans l'interpellation donc musclée de la fameuse contre-escarpe, hein, place qui est devenue ultra célèbre, hein, parce qu'on connaissait pas du tout avant le nom. Donc ça a été publié dans le Monde aujourd'hui, en tout cas une partie de l'interrogatoire. Benalla explique qu'au cours de l'inspection de son téléphone, alors vous allez voir, c'est drôle. Hein, il a pas osé dire qu'il y avait des extraterrestres qui étaient venus, mais c'est presque ça. Donc il explique au cours de l'inspection de son téléphone par les policiers que certains messages se seraient effacés comme par magie. C'est ces mots. C'est génial. Il est allé plus loin, il a dit, on a pu constater que des SMS disparaissaient au fur et à mesure.
Alors, tant que c'est comme par magie, écoute.
Ouais, c'est très drôle. Il a même dit la date a été changée comme ça à distance et c'est devenu 1970. Lors de la même garde à vue, les magistrats lui intiment l'ordre de déverrouiller le code d'accès à certaines fonctions de son téléphone. Et là, il dit, il balance les autres, il dit non, mais si vous y arrivez pas avec les codes que je vous donne, en fait, il faut s'adresser à l'Élysée, ils ont dû les changer à distance. Alors, je sais pas si c'est possible, en fait. Je m'en fous. C'est juste ridicule. Ça, son espèce d'explication à deux balles. Alors, après, il va plus loin. Et c'est là où on sent toute la force que peut donner le pouvoir à des gens qui n'en ont, qui soi-disant ne sont pas censés en avoir, mais qui en ont de par leur fonction. Puisque quand il a questionné sur ce qu'il a fait, il a dit qu'il estimait mériter une médaille pour son action lors des événements de la contre-escape. Il assure n'avoir aucun regret. Il a dit, je cite, c'était la guerre civile. Alors déjà, bon, un beau mensonge, si vous avez déjà assisté à une guerre civile, je ne vous le souhaite pas, ça ne ressemble pas du tout à des affrontements avec la police française. Ça tire à balles réelles, tout ça, là ce n'est pas le cas, heureusement, même si la violence est forte, on n'en est heureusement pas là. Il a dit, une partie de la classe politique et des médias sont du côté des casseurs, je le déplore, j'ai fait mon devoir, et si c'était à refaire, je le referais de la même façon, je suis fier de ce que j'ai fait. Donc il est fier de se faire passer pour un flic, de taper sur des gens non violents, de tabasser une femme, enfin voilà, toutes ces choses-là, il assume jusqu'au bout, parce qu'il se sent sûr de lui, avec son petit pouvoir d'imbécile macho qu'il est, parce qu'en plus, voilà, tout est mélangé. Alors, autre exemple horrible, je vais parler de Sayed Kamal, que je ne connaissais pas, un conservateur britannique, qui a eu l'air ridicule à Strasbourg cette semaine, puisqu'il a été... Alors, il est conservateur, hein. Donc à droite sur l'échiquier politique anglais. Et il y a eu une pique lors d'une réunion sur le Brexit sur les extrémistes de droite en Angleterre qui auraient fait gagner et fait basculer les Britanniques du côté du Brexit. Et lui, il a répondu qu'il a rapproché les socialistes des nazis. C'est pas mal quand même. Alors, ça, c'est un truc facile parce que dans le parti nazi, c'était national-socialisme. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le socialisme du tout. Mais ayant le cul d'une poule et se sentant lui aussi au-dessus des autres, il peut sortir des conneries grosses comme lui. Je sais pas s'il est gros, mais voilà, qui sont énormes. Alors, troisième ridicule exemple de ce que peut donner le pouvoir en politique, une réunion le 24 octobre, c'est-à-dire hier, pour examiner en commission des lois au niveau de l'Europe une proposition de résolution relative au respect de l'état de droit au sein de l'Union européenne, un texte qui condamne en fait la Pologne, la Hongrie et la Roumanie pour les atteintes aux droits de l'homme qui sont en cours hein, dans ces pays, les attaques de journalisme, de journaux, de choses, voilà, de militants, de choses comme ça. Et donc c'est une réunion qui a lieu et les députés Les Républicains, le parti de M. Laurent Wauquiez, ils sont rentrés, ils sont ressortis tout de suite, ils ont refusé d'examiner le texte et de bien sûr de le signer pour qu'il passe ailleurs. Alors, ça n'empêchera pas que le texte arrivera au Parlement, mais c'est juste pour montrer l'imbécilité. Ils s'étaient déjà battus hein, au sein du PPE, puisqu'ils font partie du PPE, et au sein de cette idée de résolution pour condamner les dérives autoritaires de ces trois pays. Autoritaires, on rappelle, qui sont réels, hein, qui ne sont pas inventés, c'est pas de la fabulation. Mais pourquoi ils font ça? Alors, pour une partie, parce qu'ils sont d'accord, hein, parce que c'est des autoritaires aussi, mais surtout, c'est parce que ils sont dans le même parti que Orban. Vous savez, Orban, c'est l'autoritaire qui est en Hongrie, là. Ben oui, il est aussi dans le PPE. Ce parti de droite, ce groupe de droite, donc ils font une espèce de, eh bien, ils sont dans le même parti, donc ils sont solidaires. Du coup, ça veut dire que les Républicains, puisqu'ils sont tous sortis, sont solidaires de la politique de la Hongrie. C'est intéressant d'avoir ça. Le ridicule ne tue point. Et puis pour terminer, le pire du pire, je pense que voilà. Dans la série, nos ennemis, les ennemis de nos ennemis deviennent nos amis. Un truc horrible, hein, parce que dans ces cas-là, on combat. Macron qui est notre ennemi en s'alliant avec l'extrême droite parce que c'est l'ennemi de Macron, et ben c'est ça, c'est ce que vient de faire Monsieur Mélenchon. Alors je pense que il est au bout du rouleau, Mélenchon, puisque vous le savez, hein, je pense que vous n'avez pas raté le truc, la Commission européenne a retoqué le budget italien. Pour des raisons qui se discutent ou qui ne se discutent pas, on s'en fout, le problème n'est pas là. Le problème c'est qu'est-ce qu'on peut s'associer aujourd'hui au pouvoir d'extrême droite en œuvre en Italie. Bien évidemment non, il ne faut faire aucune alliance, aucun soutien à quelques groupuscules de droite ou d'extrême droite qu'il en ait. En tout cas, c'est ma conviction d'homme qui est placé de l'autre côté politique. Ben, c'est pas le cas de M. Mélenchon, puisque il a appelé à soutenir le gouvernement italien, c'est-à-dire l'extrême droite, et puis les populistes, dont il est finalement assez proche. Hein. Et il a dit... On comprend qu'il n'est pas très loin du coup du populisme et de l'extrême droite quand même. Des fois il a dit, dans cette affaire, les Français ont intérêt à défendre ceux qui défendent la souveraineté populaire. L'identité nationale française, rien que le mot d'utiliser ce terme-là, c'est un signe. Donc je le cite, continue de citer Mélenchon. L'identité nationale française est une identité républicaine qui se confond avec l'idée de souveraineté populaire. C'est la raison pour laquelle il faut évidemment prendre parti pour le gouvernement italien contre la Commission européenne. Et c'est pas parce qu'il est contre la Commission européenne, il est anti-européen convaincu, Monsieur Mélenchon, qu'il faut s'allier avec les fachos qui sont anti-européens. Ça, c'est un truc qu'il est prêt à faire, qu'il vient d'assumer. J'ai juste envie de vomir. Et j'espère que voilà. Là, je pense qu'il a pris un gros coup hein, parce que il est tellement ridicule, tellement imbu de lui-même, imbu de ce pouvoir que donne la politique, que donne le système de la démocratie représentative, qu'il est prêt à faire toutes les alliances possibles pour garder ce pouvoir ou pour acquérir ce pouvoir, puisqu'il l'a pas vraiment. Notamment, soutenir l'extrême droite. C'est triste tout ça. Voilà, c'était ma rubrique. Faut pas voter, faut pas participer au système, sinon le système vous pourrit.
Alors, après les profiteurs de la politique, je vais profiter de mon tour de parole pour parler d'autres profiteurs. Hein, on va y arriver. J'ai fait des choix cette semaine. J'aurais pu vous parler de plein de choses, hein, de rachats chez les confiseurs, que finalement j'ai finalement décidé de ne pas vous parler ce soir. C'est-à-dire globalement, pour faire court, la boîte qui détient aujourd'hui Carambar va racheter Luthi. Voilà, donc sachez qu'il y a encore...
C'est de la concentration, ça s'appelle.
C'est ça, voilà. Donc j'ai décidé pas de développer cette information, mais de parler plutôt de petites ententes ou de coûts portés à des entreprises par des autorités de la concurrence. On va d'abord partir en Italie. On va donner suite. Et on va s'intéresser à l'autorité italienne de la concurrence qui, en vrai, s'appelle, attention, et c'est sans l'accent, mais nous aimons prendre des risques dans cette émission, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Globalement, vous aurez compris ce que ça veut dire.
T'avais pas fait italien en première langue, toi ?
Pas du tout. Je suis même pas en deuxième, même pas en troisième. C'est pour vous dire à quel point c'est compliqué. Mais encore une fois, nous aimons prendre des risques. Donc, l'Autorité italienne de la concurrence et des marchés a condamné Apple et Samsung de multinationales. Extrêmement connu, n'est-ce pas? Alors, l'autorité italienne a décidé que Apple et Samsung avaient des pratiques commerciales malhonnêtes. J'aime bien ce mot
bon?
Malhonnête. Ah bah oui, donc Apple va payer une amende de 10 millions d'euros, Samsung 5 millions d'euros, des sommes rondelettes, malgré tout. Hein, même évidemment si on est sur des multinationales qui ont des chiffres d'affaires absolument faramineux, c'est quand même de belles petites amendes. Alors il y a eu plusieurs plaintes qui avaient été déposées contre les deux fabricants. L'autorité italienne de la concurrence a donc décidé d'ouvrir une enquête. Et puis, ça a donné donc ces deux amendes. Alors, qu'est-ce qui a posé problème pour ces deux multinationales ? Eh ben, c'est que l'autorité estime que Apple et Samsung forcent la mise à jour de certains de leurs appareils avec des versions différentes, sans signaler les changements aux utilisateurs qui sont un peu forcés de mettre à jour leur téléphone et sans les informer des conséquences qu'il va y avoir parfois sur les performances de leur appareil. Donc c'est comme ça qu'il y a des amendes. Alors par exemple, pour l'autorité, Samsung a obligé les utilisateurs de ses Note 4 à installer Android Marshmallow et certains utilisateurs se sont retrouvés avec des dysfonctionnements sur les appareils, et tout ça n'avait pas été informé. Apple est accusé d'avoir obligé les utilisateurs des iPhone 6 à installer la nouvelle version d'iOS 10, qui était normalement prévue pour la version d'après.
Suivante, ouais.
Ouais, pour la 7. Pour l'iPhone 7. Donc ça a posé quelques problèmes, et apparemment il y a eu, pour l'autorité, des conséquences sur la durée de vie de la batterie, des aspects de changement qu'Apple n'avait pas signifié correctement aux utilisateurs aux utilisatrices des iPhones. Malgré a priori des correctifs amenés, l'autorité a estimé que tout ça relevait d'obligations pour les utilisateurs et les utilisatrices, les consommateurs et les consommatrices, qui n'étaient pas prévenus et qui se retrouvaient parfois avec des appareils de mauvaise qualité, hein, après coup, qui n'étaient pas informés, qui ne pouvaient souvent ne pas, qui avaient du mal à refuser ces mises à jour. Donc, l'autorité de la concurrence italienne a demandé à ce que Apple et Samsung changent leurs pratiques, reste que c'est quand même 10 millions et 5 millions d'euros. Voilà pour la petite chose. Et alors, la deuxième chose, c'est un truc que j'ai lu dans le cahier Économie et Entreprise de samedi du Monde, le cahier du Monde.
Oh là, tu lis des trucs comme ça, toi, de droite.
Ouais. Bah, tu sais, il faut toujours lire. Moi, j'aime bien, vous savez, si vous nous écoutez, lire les trucs éco. Et j'aime bien lire les trucs, effectivement, de droite.
Oui, éco. Non, mais je t'en prie.
Mais si tu veux, moi, je veux bien lire l'Humanité, j'aime bien aussi. Sauf qu'effectivement, là, le traitement sur les fusions entre la boîte qui détient Carambeur et Luti, on n'en parle pas trop. Sauf, évidemment, quand ça touche les salariés. Et je lis l'Humanité pour aussi ce genre d'informations. Il n'y a pas à dire. Hein. Mais on peut lire aussi parfois le Canard Enchaîné pour avoir des informations, et c'est encore le cas pour le numéro cette semaine, sur ce qui peut se passer dans les entreprises et au niveau du patronat et de ses ententes. Et alors là, donc, comme le dit Le Monde, concurrence, deux points, soupçon de cartel dans le jambon. Et ouais. Alors c'est un truc extrêmement sérieux parce que c'est encore une fois une entente entre des entreprises de l'agroalimentaire. Et vous allez voir, c'est une entente comme il n'y en avait encore pas eu jusqu'à présent. Alors, ce qu'on sait, c'est que Le Monde révèle cette information. L'autorité de la concurrence a réagi en disant, effectivement, on a une enquête en cours, mais on n'en dira pas plus, puisque nous sommes en train de fignoler cette affaire. Reste que c'est une enquête qui, a priori, a débuté en 2013, Donc ça commence à faire une petite, un petit temps hein, quand même que court cette enquête. Il semblerait qu'il y a un certain nombre de preuves qui soient pour l'instant détenues par l'autorité de la concurrence. Alors c'est des faits qui sont condamnables a priori et qui remonteraient sur une période allant de janvier 2011 à avril 2013. Certainement en 2013 parce que l'autorité de la concurrence a démarré son enquête, c'est pour ça que ça s'est arrêté. Et si jamais cette enquête elle est importante, c'est que ça touche 14 entreprises qui sont soupçonnées de cette entendue. Alors je rappelle que l'entente, hein, c'est des accords qui décident à ne pas faire concurrence et qui donc vont avantager les entreprises par rapport à d'autres entreprises, par rapport aux consommateurs, aux consommatrices. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, alors c'est pas que sur le jambon, hein, c'est sur la charcuterie, d'une manière générale, c'est que ça serait en amont et en aval. C'est-à-dire qu'on a des industries de l'agroalimentaire qui se sont mis d'accord, qui ont fait des ententes illégales, du côté des producteurs et des ports, et du côté de la grande distribution. C'est-à-dire, globalement, il a une entente qui a réussi à escroquer toute la filière. C'est ça quand même qui est incroyable. Alors, par exemple, ce qu'on sait aussi, c'est qu'apparemment, il y a quelqu'un qui a lâché. Vous savez qu'il y a souvent dans ce genre d'entente, ouais, une entreprise qui décide de collaborer avec l'autorité de la concurrence.
Et qui échappe permet, donc aux... Et,
effectivement,
aux amendes.
Qui échappe aux amendes ou qui a des amendes un peu plus réduites. Hein, ça dépend un petit peu les cas de ces ententes. Donc là, ce qu'on sait, c'est qu'apparemment, effectivement, il y a eu une entreprise qui a lâché le truc. Peut-être qu'il s'agirait, d'après les informations qu'on a, de Campo Frio Food, qui est la société qui détient la marque Aost, que vous connaissez certainement dans vos rayons de supermarché. Donc là, ce qu'on sait, c'est que donc c'est dans les deux sens, qu'il y a eu une coordination pour faire baisser le prix de la viande auprès des abatteurs de porc, et puis qu'il y a eu des accords pour faire monter le prix avec la grande distribution. Vous voyez, donc c'est-à-dire que les consommateurs ont payé plus cher, et que les abatteurs de porc
ont eu moins
d'argent. Donc ce qui veut dire que c'était tout bénef pour ceux qui sont mieux, comme l'agroalimentaire, qui vont transformer par exemple. Donc là, il y a quand même des gens qui ont gagné sur tous les tableaux, hein, c'est quand même assez incroyable. Alors on a quelques informations, apparemment l'autorité de la concurrence a trouvé des extraits de courriel, des tableaux récapitulatifs, des transcriptions de contenu, des échanges téléphoniques. Donc il y a tout un faisceau d'indices, paraît-il, c'est le terme qu'il faut employé pour dire qu'a priori il y a bien un cartel, il y a bien une entente entre des industriels de l'agroalimentaire sur la charcuterie. Alors on parle de marques comme Fleury Michon. Hein. Fleury Michon a répondu ces derniers temps que elle avait fait une opposition au grief qui lui était amené. Reste que on attend les résultats d'ici le courant de l'année prochaine. On n'a pas bien plus de précisions, mais il faut quand même se dire qu'il y a aussi depuis 2013 il y a une enquête. C'est que ça doit être quand même un sacré machin et que petit lièvre par petit lièvre, on a là des enquêteurs de l'autorité de la concurrence qui ont dû soulever quand même un sacré paquet de trucs coincés sous le tapis. Donc moi j'attends les résultats de cette entente du jambon.
Alors on va parler un petit peu de Mauritanie, puisque la Mauritanie vient de signer, c'était le 21 septembre dernier, un accord de partenariat économique régional entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union Européenne. Donc ils participent à cet accord, donc en gros un accord avec l'Union Européenne. Outre la promotion du commerce entre l'Union Européenne et les États africains, cet accord aurait pour ambition de réduire la pauvreté et d'investir dans l'éducation. Ça paraît être irréaliste quand on connaît la Mauritanie. Pour preuve, dans son dernier rapport sur l'extrême pauvreté en Mauritanie, publié en juin 2017, c'était Philippe Alston qui avait rédigé ce rapport, qui était le rapporteur aux Nations Unies. Il indiquait, je cite, « Nous ne pouvons pas éradiquer la pauvreté sans prendre au sérieux les droits de l'homme de toutes les personnes vivant en Mauritanie. » Puisqu'il y a un problème de droits de l'homme et nous allons en revenir tout de suite, puisque cet accord Union Européenne Mauritanie est une honte. En tout cas, c'est mon avis. Donc officiellement, je vous le dis, la Mauritanie a aboli l'esclavage en 1981. Dans les faits, on en est loin. Ça a été le dernier pays au monde à le faire quand même, et sous la contrainte. Mais c'est qu'il a fallu attendre quand même 2007 pour qu'une loi mauritanienne dise que l'esclavage, c'est un crime. D'après les estimations non gouvernementales, bien évidemment, puisque les estimations gouvernementales, c'est zéro esclave. Il y a différents chiffres qui circulent. Le plus gros, c'est l'association française qui s'appelle SOS Esclaves, qui aurait compté, qui estime à 600 000 esclaves en Mauritanie. D'après Global Slavery Index, une association anglo-saxonne, il y aurait 90 000 esclaves. Donc les chiffres varient. Les Nations Unies d'ailleurs disent que c'est très difficile de faire un décompte en fait du nombre d'esclaves en Mauritanie. Alors si on reste à 90 000, ça fait quand même déjà 2% de la population. Et si c'est le chiffre le plus bas qui existe. Hein. Donc c'est inquiétant. Alors l'histoire de l'esclavage en Mauritanie, ça remonte à plusieurs siècles. On est esclave en fait de mère en fille ou de mère en fils. C'est-à-dire que ça se transmet quand une femme esclave accouche, son enfant devient automatiquement esclave. Aujourd'hui, c'est essentiellement de cette manière-là que les esclaves existent. Il y a plus de, ils vont plus faire de nouveaux esclaves. Officiellement, enfin en tout cas c'est ce que disent ceux qui ont étudié l'histoire, enfin la pratique de l'esclavage aujourd'hui en Mauritanie. Alors c'est une pratique qui est vraiment très enracinée dans le pays. C'est à tel point qu'il y a des familles complètes, des générations qui naissent esclaves et qui savent pas qu'il y a un autre mode de vie possible. C'est-à-dire qu'ils ont jamais vu autre chose. Parce qu'ils sont pas dans les villes, parce que voilà, ils sont enfermés, ils ont pas accès à l'école, bien évidemment, quand t'es esclave, tu vas pas à l'école, tu vas travailler pour le maître. Donc voilà. La problématique, c'est que c'est rare que les propriétaires émancipent ces esclaves. Il faut savoir qu'il y a dedans, on trouve notamment des fonctionnaires et même des juges. Du coup, il y a un système qui est vraiment très fermé. De plus, donc comme je le disais, l'esclavage, la fonction d'esclave, l'état d'esclave se transmet par la mère. En fait, lorsque celle-ci met au monde un enfant, qui est en général issu d'un viol par un propriétaire, cet enfant devient esclave. Et effectivement, dans les pratiques de l'esclavage, c'est un vieux code qui existe en Mauritanie, les propriétaires ont tous les droits, c'est le principe hein, de l'esclavage, tous les droits, et il y a des multiples viols sur les femmes, notamment, qui sont esclaves, qu'on retrouve faire essentiellement deux fonctions. La première, c'est du travail domestique dans les maisons. Hein. Elle nettoie, elle s'occupe des enfants, tout ça, elle fait à manger. Et puis l'autre travail, c'est le travail, alors pas dans les champs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de champs en Mauritanie, mais pour garder les troupeaux hein, d'animaux, de chèvres ou de chameaux, c'est ce qu'on trouve un peu en Mauritanie. Donc là, c'est des esclaves qui s'en occupent. Voilà. Alors, quand c'était le cas en Occident, l'esclavage en Mauritanie, c'est issu de divisions raciales qui existent toujours aujourd'hui. Faut savoir qu'en Mauritanie, les milieux politiques et économiques du pays sont dominés par les Berbères. Ce qu'on appellerait les Arabes, en fait, qui viennent du nord de l'Afrique, la partie nord du pays au départ, qui sont clairs de peau, on va dire. Eux, ils ont le pouvoir absolu, ou presque, sur le reste de la population. Le reste de la population, c'est ce qu'on appelle j'ai perdu le nom, tiens. Ah ben voilà, je vais pas retrouver. Donc des qui ont la peau foncée, qui sont plus noirs, qui étaient au départ plus du sud. Alors la population maintenant est entièrement mélangée dans la Mauritanie, mais si ce n'est que la Mauritanie, c'est essentiellement un désert. Ces noirs, eux, ce sont donc des esclaves, et pour ceux qui ne sont pas esclaves, eh ben, c'est une population qui n'a jamais le pouvoir ni économique ni politique, qui a des difficultés à mettre ses enfants à l'école. Ah oui, on les appelle des aratines, j'ai retrouvé le mot. Et donc, ils ont eu, voilà, c'est eux qui subissent toutes les discriminations. C'est un vrai pays avec un apartheid réel qui existe entre ces deux types de populations, discriminées sur une couleur de peau et sur une appartenance ethnique. Alors, est-ce qu'on peut s'émanciper de ce système d'esclavage? Alors, il y a quelques esclaves qui arrivent à s'enfuir. Hein, elles sont soutenues notamment par Monsieur Abed, qui est un avocat militant contre l'esclavage en Mauritanie. Bon, en ce moment, il est en prison. Alors, il n'y a aucune raison qu'il soit en prison, mais il a été arrêté il n'y a pas longtemps parce qu'il a été élu aux dernières élections aux législatives de septembre et vraisemblablement le pouvoir ne veut pas qu'il siège au Parlement, donc il est en prison. Donc voilà. Alors ça, c'est l'état actuel de la Mauritanie. Pour renforcer un petit peu cette alliance, pour que la Mauritanie continue finalement de faire ça, elle est prête à s'allier avec plein de gens. Alors le premier alliance, c'est avec l'Occident, pas simplement avec un accord avec l'Europe, mais sur la question du terrorisme, c'est un peu le truc facile. Du coup, la Mauritanie se fait financer ses 97 millions d'euros par l'Union européenne, la France, l'Espagne avait demandé d'augmenter aussi ce financement pour sa gestion des migrations, c'est-à-dire empêcher grosso modo les migrations. Du coup, il y a un soutien aussi sur ce plan-là, ce qui permet à la Mauritanie de continuer de pratiquer l'esclavage sans que finalement personne remette trop en cause les choses. Et puis le dernier truc, c'est qu'elle est alliée avec un pays très très fort, qui est l'Arabie Saoudite. Alors on l'a vu avec l'affaire Khashoggi récemment. Donc ce journaliste qui a été découpé en morceaux au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Le lundi 15 octobre, la Mauritanie a fait un commentaire officiel en disant « La campagne d'allégations fallacieuses qui ne sert ni la transparence de l'enquête, ni de l'enquête en cours, ni sa crédibilité. » Bref, elle dénonce un peu ce que faisait la Turquie en donnant des informations. Et elle reprenait exactement les termes de l'Arabie Saoudite, car il y a une alliance importante avec l'Arabie Saoudite. Le 20 octobre d'ailleurs, donc le lendemain de la reconnaissance par l'Arabie Saoudite de son implication dans la disparition de Jamal Khashoggi, là ils font un communiqué qui est dans exactement quasiment la copie conforme de l'Arabie Saoudite, de celui de l'Arabie Saoudite, qui dit qu'ils ont confiance dans l'Arabie Saoudite pour faire toute la lumière sur ce qui s'est passé avec ce journaliste. Alors voilà. Donc il faut savoir que depuis l'arrivée du président Mohamed Oud Abdelaziz, qui est un président ultra-autoritaire, la diplomatie mauritanienne, elle est alignée sur Riyad. Elle avait soutenu l'Arabie Saoudite contre le Qatar, contre le Canada, quand cet été le Canada a dit que c'était plus possible de faire du commerce avec un pays aussi horrible que l'Arabie Saoudite. Et voilà. Donc on voit bien que la Mauritanie, avec ses différentes alliances, elle est relativement protégée et on a aujourd'hui cet accord économique qui ne fait que renforcer cette situation antidémocratique qui est finalement que conforter le régime du président Mohamed Oud Abdelaziz et surtout qui met au banc de la société les opposants qui sont opprimés. On l'a vu avec tout à l'heure l'avocat fraîchement élu et qui se retrouve en prison sans aucune raison. Donc voilà. On se rappelle dans les années 70, quand il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, il y avait eu des condamnations quand même au moins symboliques. Là, l'Union européenne vient de se féliciter de l'accord économique avec la Mauritanie. Pourtant, la Mauritanie pratique un vrai état ségrégationnaire entre ces morts blancs, comme on les appelle aussi, et ces noirs qui sont plus... Alors, il faut savoir, en plus, la répartition elle est très inégale. Ça ne justifie rien, mais les morts blancs sont 30% de la population. Donc, c'est cette communauté bédane. Les aratines, eux, ils sont 70%, ils n'ont rien. Et donc, c'est eux qui... Il n'y a que des aratines en esclaves. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. 2% quand même de la population qui serait au minimum des esclaves. C'est quand même une honte que l'Europe signe des accords. Aussi bien sur le terrorisme, sur l'émigration et sur le commerce avec la Mauritanie. D'ailleurs, le militant anti-esclavagiste, Biram Da Abed, a dit que le meilleur moyen d'aider les militants en Mauritanie, c'est d'arrêter de donner de l'argent à ce pays. Donc il le dit, c'est lui-même qui le dit. On veut bien le croire, c'est pas ce que fait malheureusement l'Europe. Voilà, alors je vais terminer dans le truc un peu lié aux droits de l'homme, avec deux petites infos. La première, c'est un truc qui est à la fois drôle et pathétique et triste et agressif. On va aller en Russie, il y avait un festival de cinéma LGBT qui s'ouvrait hier, mercredi soir, à Saint-Pétersbourg. Donc on sait que la Russie est ouvertement homophobe, puisqu'il y a des lois pour ça. Et il y a un député russe qui est militant anti-homosexuel, qui s'est invité au festival et qui essaie d'empêcher le festival de s'ouvrir. Et il y est arrivé... au début il a essayé de bloquer l'entrée du cinéma, c'était pas possible. Ensuite il a appelé la police en disant qu'à l'intérieur il y avait des otages. Donc la police est intervenue, ils ont mis du temps, du coup le festival n'a pas pu commencer hier, il devrait commencer ce soir. Donc c'est ce député Vitali Milonov, donc militant anti-homosexualité, c'est lui qui a rédigé la loi de 2013 sur la propagande homosexuelle auprès des mineurs, qui fait qu'on n'a plus le droit en Russie de parler de l'homosexualité, même de parler du sida sur les homosexuels, sans que ce soit considéré comme une propagande pour faire basculer les mineurs du côté de l'homosexualité. C'est ce qu'ils sous-entendent, ces fachos-là. Donc il est arrivé à faire son truc, le festival devrait commencer ce soir. En tout cas, courage aux militants LGBT de Russie, parce que faire un festival aujourd'hui de cinéma LGBT en Russie, c'est vraiment très très compliqué. On rappelle qu'il y a ils sont la cible de fachos, mais aussi de toute la population quand même, ou presque, majoritairement en tout cas, puisque ça a été voté au Parlement. On rappelle quand même, dans les faits, l'homosexualité est plus un crime depuis 93, c'est plus une maladie mentale depuis 99, mais dès qu'on en parle, on fait de la propagande dangereuse pour les enfants, il paraît. Du coup, on est victime soit de la justice, soit de violence. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu de ça. Et puis, quelque chose qui va peut-être dans le bon sens en Tunisie. Alors, en ce moment, la Tunisie va plutôt dans le bon sens. Alors, on rappelle qu'il y a une loi qui a été votée la semaine dernière sur le racisme, pour officiellement éliminer toutes les formes de discrimination raciale. Donc c'est une bonne nouvelle, mais c'est très très faible par rapport à l'ensemble des inégalités qui existent encore dans la société tunisienne, notamment ce qui concerne ceux qui souffrent a priori quand même le plus des inégalités, ce sont les homosexuels. Et la bonne nouvelle, elle nous vient du ministre des Droits de l'Homme, Mehdi Ben Garbia, qui a annoncé que bientôt, il n'y aurait plus possibilité d'imposer aux homosexuels de se soumettre à un test anal. Alors, je rappelle un petit peu ce que c'est l'article 230 du code pénal tunisien qui punit la sodomie de 3 ans d'emprisonnement, et les enquêteurs, les juges, les flics ont le droit de faire pratiquer ce fameux test anal, donc qui est une pratique bien évidemment cruelle et inhumaine
et assez peu scientifique, il faut bien le dire.
Même si c'est un scientifique, il n'y a aucune raison de le faire. Pour mémoire, en fait, c'est en mars 2017, donc là, il y a un peu plus d'un an, deux Tunisiens avaient été arrêtés, un étudiant et un réalisateur, soupçonnés d'homosexualité. Et ça avait fait pas mal parler. Il y avait une bonne vague d'indignation au sein de la société civile tunisienne sur, justement, ces tests anaux pour vérifier s'ils ont eu des relations homosexuelles ou pas. Donc, alors, on sait que c'est pour l'instant un peu difficile en Tunisie pour faire évoluer les pratiques policières et judiciaires dans ce domaine-là. C'était le ministre, un des ministres qui l'avait dit, puisque le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait fait 248 recommandations pour améliorer les droits humains en Tunisie. La Tunisie en a adopté 189, hein, ce qui est déjà pas mal, mais avait rejeté notamment celles qui touchaient la modification ou l'abrogation de l'article 230 du code pénal sur cette fameuse sodomie et qui entraîne donc l'autorisation de ces tests anaux. Mais la bonne nouvelle du jour, c'est que la députée centriste Kala Ben Aïcha devrait déposer début novembre une proposition de loi pour amender cet article 230 criminalisant donc cette homosexualité. Donc c'est un double cas. Il y a le ministre donc des droits de l'homme, Mehdi Ben Garbia, qui dit que maintenant il y aura plus d'obligation. Hein, déjà, même si ça reste encore dans la loi, il n'y aura plus d'obligation, les homosexuels pourront refuser et ça ne sera pas retenu comme preuve dans leur procès. Et d'ici normalement un mois, une loi, en espérant qu'elle soit votée, devrait permettre de faire disparaître tout ça. Voilà. On donne des infos positives, des fois il arrive des choses dans le bon sens. Puis je pense qu'on va passer en Iran, parce que c'est un pays qui
a un petit problème avec les droits humains.
Qui a un petit problème aussi avec les droits humains.
Et qui en plus pratique les assassinats d'État et de masse, hein, oui. Il faut le dire quand même, donc la peine de mort. Et c'était juste, ça va être très très rapide, pour rappeler que l'Iran assassine ses militants d'une manière générale, et ses militants d'une manière générale assassinent aussi des mineurs, hein, parce que c'est tellement facile. Ouais. Et puis, s'en prend depuis quelque temps aux écologistes. On pense savoir, parce que c'est compliqué, qu'il y aurait depuis le début de l'année 2018 une douzaine de militants écolos qui auraient été arrêtés, qui seraient en attente de procès. Et en tout cas, il y en a quatre là, hein, qui sont en procès actuellement. Donc ils ont été arrêtés pour espionnage et aujourd'hui ils encourent la peine de mort, hein, ces quatre militants écolos. Alors le chef d'accusation...
C'est sympa quand même.
Ouais, c'est l'Iran. J'ai pas dit que c'était drôle, hein. Ben, on parle de peine de mort quand même. Le chef d'accusation, c'est un truc absolument incroyable en Iran, ça s'appelle corruption sur terre. c'est le truc le plus, un des trucs les plus graves. Ça a l'air bizarre comme terme, hein, corruption sur terre, mais c'est ça, dont sont accusés ces quatre militants écolos. Alors, en plus, les peines ont été alourdies, puisqu'ils auraient a priori tenté de s'approcher de centres militaires et d'obtenir du renseignement militaire sur ces centres sous couvert d'activités écologistes. Donc, ce ne seraient pas des écolos, mais des espions.
Ah oui, alors là, ils sont foutus, là.
Voilà, d'où la sanction de peine de mort. Les autres militants écolos sont en attente d'un procès qui devrait peut-être arriver, peut-être pas. C'est le problème aussi de Laurent, c'est qu'on ne sait pas bien à quelle vitesse va la justice. Ça peut être parfois très expéditif, parfois pas du tout. En tout cas, voilà encore voilà, l'Iran qui va certainement condamner ces militants écolos à la peine de mort. On va suivre un petit peu cette affaire. Mais voilà, c'est aussi, il ne faut jamais oublier que l'Iran, c'est un pays avec une population qui sait se rebeller. Parfois, on en parle un petit peu dans les médias aussi, parce qu'il y a des grands mouvements de manifestation. Il y en avait eu sur l'économie, sur les conditions de vie. Mais il y en a aussi sur la politique, et il y en a aussi sur des sujets très variés, sur le droit des femmes, le droit à la liberté d'opinion, sur l'écologie, et que l'État iranien sait être répressif avec toutes ces personnes.
Alors, on rappelle que les militants écolos sont particulièrement visés dans le monde. Hein. Il y en a
particulièrement, chaque année. Je ne suis pas sûr que ce soit plus que les autres militants, mais en tout cas, ils le sont.
Enfin, ils sont beaucoup assassinés, en fait.
Beaucoup assassinés.
Notamment en Amérique du Sud et dans d'autres régions du
en
monde.
En Asie aussi.
Ouais. Voilà. On va parler peut-être de ce film, Capharnaüm, donc film libanais.
Oui, je pensais qu'on allait parler un petit peu d'écologie.
Non, enfin après.
Alors, on va parler après. Donc, oui, tu as souhaité que nous parlions...
Parce qu'on est dans les droits de l'homme, tout
je
ça,
suis
c'est
d'accord.
Ça en lien.
Oui, alors...
C'est pas un film sur les droits de l'homme.
Non, pas du tout. C'est un film de Nadine Labaki qui est sorti en salle le mercredi 17 octobre. Donc, on est un petit peu en décalage pour en parler. Mais il est toujours dans les salles de cinéma. C'est un film qui, effectivement, comme tu le disais, de Nadine Labaki, réalisatrice, scénariste, et qui joue le rôle d'une avocate dans ce film. Alors, Capharnaüm, je vous rappelle qu'en français, c'est aussi le lieu où il y a du bazar, où il y a des objets entassés, et c'est aussi le nom d'un village à la base, hein, en Palestine. C'est un titre qui, évidemment, est bien choisi par cette réalisatrice libanaise. Prix du jury au dernier Festival de Cannes, hein, le film, c'est le troisième long métrage de Nadine Labaki.
Il a été nominé à plein d'endroits, ce film.
Oui, alors il est aussi choisi pour représenter le cinéma libanais, hein, aux Oscars, il me semble. Enfin bon, voilà. C'est un film. Je vais essayer de le résumer, si tu veux bien, en tout cas, de donner le pitch, comme on dit. C'est Zain, un garçon d'une douzaine d'années, qui va emmener ses enfants, ses parents au procès, qu'il leur reproche de l'avoir mis au monde, tout simplement. Tout simplement. Et oui, aussi simplement que ça, c'est ce qu'il va expliquer au juge. Et à partir de ce départ, on va reprendre par des flashbacks et quelques moments passés donc dans ce tribunal, la vie de Zain, hein, donc des séquences dans le prétoire assez courtes finalement, qui vont nous emmener à comprendre qu'est-ce qui l'a amené là et quelle a été sa vie de ce gamin de 12 ans.
Parce qu'en fait, on apprend qu'il est en prison, en fait, quand il passe et qu'il accuse ses parents
et qu'il a commis
de l'avoir mis au monde.
Il a attaqué quelqu'un.
Voilà, il est en prison, il a 12 ans, il est en prison quand même, hein, le petit gamin. Donc, il a attaqué quelqu'un au couteau.
On va suivre Zain, qui est un enfant de Beyrouth, en tout cas, voilà, avec une famille qui a de multiples enfants, donc il a de multiples frères et sœurs, qui vit dans la précarité, la pauvreté importante. On est sur ces gamins qui vont travailler chez l'épicier du coin pour quelques sous, qui vont vendre des jus de fruits, des fruits dans la rue pour quelques sous aussi à la porte, hein, des voitures qui, voilà, interpellent les passants.
Qui ne va pas à l'école malgré l'obligation d'aller à l'école, mais c'est pas parce qu'il faut aller vendre ses fruits, aller travailler chez l'épicier du coin pour amener un peu d'argent dans la maison.
Donc voilà, famille qui risque d'être expulsée par un propriétaire tout pourri qui tient cet appartement. Donc une vie de Capharnaüm, hein, dans cet appartement aussi où tout le monde, les enfants vivent un petit peu entassés dans une chambre la nuit. Et donc c'est cette histoire de Zain que Nadine Labaki a choisi de nous raconter avec plein de choses à l'intérieur. Je te laisse un peu la parole.
Oui, parce qu'en fait, Zen, donc, c'est une famille dans les quartiers chrétiens de Beyrouth. C'est important de dire ça parce que on présente souvent la pauvreté au Liban comme étant plutôt l'apanage des chiites et notamment des quartiers sud de Beyrouth ou la vallée de la Beka, des choses comme ça, là où est implanté le Hezbollah, hein, qui a grandi pour représenter d'ailleurs ces populations pauvres musulmanes. Là, c'est pas ça. On est du côté des pauvres chrétiens. Et c'est très rare de voir ça, de faire un film là-dessus. D'ailleurs, ils l'ont mal vécu, certaines parties de la communauté chrétienne libanaise. Et donc, ce gamin, effectivement, il s'en va de chez lui, il se retrouve à vivre dans un bidonville. Au mieux, il rencontre du coup une... Alors, il y a plein de personnages truculents un petit peu dans le film. Il rencontre Monsieur Kafarman, là, dans une fête foraine, un espèce de petit vieux un peu à la ramasse. Et puis surtout, il va rencontrer cette femme qui vient d'Éthiopie, qui a un petit garçon de un peu plus d'un an. Et il va s'occuper du petit garçon pendant que la femme va travailler. Puis il va y avoir toute une histoire. Alors, on va pas raconter le film. Mais en fait, il y a au moins la moitié du film où on ne voit que les deux enfants, en fait. Mmh. Le garçon de 12 ans et le petit d'un an et
Zen
demi.
Zen s'appelle vraiment Zen. Hein. Il s'appelle Zen Al-Rafea. Le petit enfant qui joue le bébé de Sawad, là, donc cette éthiopienne sans papier, s'appelle... j'ai perdu l'intégralité de son nom. Je suis bien embêtée. Trésor Bankole, mais j'ai perdu le vrai nom, parce que j'aime bien donner les vrais prénoms. Bolou Watife, Trésor Bankole, il s'appelle. Et on a là deux personnages absolument incroyables à l'écran et deux acteurs absolument incroyables. Il faut savoir que Nadine Labaki, elle a fait la même chose que dans son deuxième film, Et maintenant où on va, qui était sorti en 2011. Elle a été prendre des acteurs et des actrices amateurs, c'est-à-dire pas des pros qui avaient déjà travaillé, mais des gens en plus qui sont dans la situation qu'elle décrit à l'écran.
C'est-à-dire que... Le gamin de 12 ans, là, Zayn, là, il est énorme à l'écran.
C'est un gamin qui est... qu'elle a chopé comme ça dans la rue de Beyrouth. Sawad, elle est jouée par une Kota Al-Haddad, qui est donc une jeune mère éthiopienne, immigrée sans papier. Il faut savoir qu'elle a été arrêtée, elle, sur le tournage, parce qu'elle n'a pas de papier. Donc, Nadine Labaki, elle a été chercher aussi des gens qui racontent quelque part un peu une partie de leur histoire ou de leur parcours, en tout cas qui ont du ressenti pour leur personnage. Alors, on peut critiquer ou pas cette méthode de cinéma, mais en tout cas, c'est le choix de Nadine Labaki, cette Libanaise, qui a décidé aussi montrer finalement l'envers d'un pays parce que dans son film on ne voit jamais un building. C'est-à-dire qu'il y a des fois on va vous parler parce que Sawad elle se retrouve à faire le ménage dans cette foire, dans ce qu'on pourrait appeler une vogue par chez nous. Mais en fait avant elle était une bonne comme il y en a beaucoup au Liban, dans les familles. Donc elle avait une madame qui s'occupait d'elle et elle a dû partir parce qu'elle était enceinte. Aujourd'hui il y a beaucoup de femmes philippines qui font bonne au Liban. Et donc Nadine Labaki, elle raconte aussi l'envers de ce décor, mais souvent quand on nous parle des bonnes, on va nous montrer aussi la bourgeoisie ou même la classe moyenne, parce que les bonnes se retrouvent aussi dans la classe moyenne au Liban.
À aucun
moment elle ne va nous montrer une richesse quelconque, un bel immeuble, un bel appartement. Nous ne faisons que passer d'appartements pourris au bidonville, aux rues dégueulasses. Il faut le dire comme ça, son film est brut de ce côté-là. Moi je trouve qu'il y a un style qui est parfois très filmique dans la fiction. On sent qu'il y a la fiction et à un moment il y a une manière de filmer quasi documentaire qui est absolument incroyable. Et c'est ça que j'ai trouvé assez chouette dans ce film.
L'histoire est larmoyante au possible.
C'est un mélo, on va pas vous mentir.
Mais en fait, elle arrive à pas nous faire tomber justement dans la facilité. Elle sort de ce truc. Il y a chaque fois des choses. Enfin, il se passe toujours quelque chose et on n'arrive pas à pleurer tout le temps parce que voilà, ça rebondit, il y a de l'espoir qui apparaît. Voilà, pourtant c'est totalement horrible.
Vous aurez donc entendu que Laurent a un peu pleuré pendant le Capharnaüm.
Il y a des scènes qui sont quand même difficiles
je trouve qu'ils sont. Donc voilà, oui, on est face à un mélo, c'est romanesque.
Oui, c'est un film qui est quand même très fort.
Moi, je trouve que ce qui est très fort aussi, c'est que Zen, elle le respecte jusqu'au bout, ce personnage, c'est-à-dire qu'il ne fait pas des saloperies. Parce que des fois, on nous montre aussi un enfant qui, pour s'en sortir, et on va l'en excuser, des fois, dans les films, va voler quelqu'un, va faire un truc. Et là, c'est pas ça. Il y a toute une partie du scène où ils sont que tous les deux, comme tu disais tout à l'heure, avec ces deux enfants, pour survivre, se laver, manger, dormir. Et il y a des scènes qui sont absolument très, très belles. On se demande comment. comment ce tournage a pu se passer pour réussir des scènes aussi chouettes. Alors c'est la magie du cinéma, on est d'accord.
Enfin, le petit, il a quand même un an et demi, il est incroyable aussi.
Et c'est absolument voilà de.
Ils sont arrivés à le faire jouer quoi.
Et ça c'est le cœur du film, hein, cette partie-là, cette détresse aussi qui est très zen et qui va l'amener à cette colère et à demander à ses parents. Pourquoi ils l'ont mis au monde et de les amener devant la justice. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on passe de la. Il est en colère, hein, Zen, mais en même temps, il c'est un gamin, donc il a aussi la tristesse et il a la détresse.
C'est la colère qui va l'amener à poignarder le mec qui a tué sa sœur, en fait, quelque part. Et enfin, tout s'explique. À aucun moment on se dit c'est un gamin, c'est un monstre. Enfin, c'est les autres les monstres
en fait. C'est les autres.
Lui, voilà, même s'il a poignardé, finalement, c'est une réaction de gamin quand tu tues quelqu'un que t'aimes. Et voilà, c'est le film est vraiment très très fort. Et puis, du coup, il y a la question des réfugiés qui est en jeu. Pas que à travers ces fameuses bonnes. Enfin, c'est quasi de l'esclavage au Liban.
C'est l'esclavage.
Ouais. Mais il y a aussi ces migrants syriens, puisqu'on a une petite fille syrienne. Qui rêvent d'aller en Suède, qui est une vraie. Enfin, ça fait partie de la réalité. Ils ont eu beaucoup de camps avec des Syriens, parce que c'est un des pays qui a accueilli les gens qui partaient de la guerre, qui fuyaient la guerre. Donc il y a aussi cette problématique-là. Il y a plein de choses dans ce film, finalement.
Alors moi, je trouve que c'est
ça foisonne
trop.
Un peu.
Mais... C'est-à-dire que c'est presque trop. Parce que Nadine Labaki, c'est un film qui dure plus de deux heures. Elle va à la fois nous parler de l'histoire de cette famille pauvre dans laquelle on en est à vendre ou à donner une enfant pour pouvoir garder. Son appartement. On va tabasser les enfants, donc on nous parle de la violence, de la pauvreté, de la réalité des bidonvilles de Beyrouth, de ces camps de Syriens justement, parce que les bidonvilles ils sont là aussi. On nous parle aussi donc des sans-papiers, on nous parle des bonnes, des Philippines, mais aussi des Éthiopiennes. On nous parle de la prison, on nous parle des profiteurs, et c'est vrai que c'est beaucoup. Et que il y a un moment où moi pendant le film je suis beaucoup attachée à Sawad, cette femme éthiopienne qui n'a plus son enfant. Ça c'est assez terrible finalement à la voir et à ressentir cet état de fait de la perte de cet enfant. Je où est-il et voilà, quand on est une maman, je pense que elle rend très bien ça à l'écran, cette comédienne. Et arrive à nous transmettre quelque chose. Et je trouve que Nadine Labaki se perd un petit peu finalement par ce trop grand nombre de sujets qui auraient été finalement un autre film aussi. Mais c'est mon avis. Ça enlève rien à la force du film, même si encore une fois c'est un mélo. Donc il ne faut pas se tromper non plus. Il y a une force politique dans certains mélos. Et là c'est exactement ça. Moi je trouve qu'elle mélange trop de choses parce qu'on a envie de s'accrocher à tous ces personnages. Et qu'elle pourrait nous faire un autre film pour nous parler aussi de ces bonnes au Liban. En tout cas c'est une bonne description aussi de Beyrouth quelque part. Ouais. On retrouve aussi cette fête foraine qui est sur la jetée de Beyrouth au Liban, qui n'est pas un endroit très glamour, il faut le dire, à la base. L'ambiance de ses souks aussi. Mais voilà, c'est aussi, je trouve, très attachant à la Russie, a très bien filmé ses deux enfants, et c'est ça qui est plutôt chouette.
Après, l'histoire est universelle, parce que la misère sociale, on a eu des films sur le fin fond des États-Unis d'Amérique, où on avait le même genre de comportement, des gens qui font des enfants à la pelle, qui s'en occupent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, et qui voilà, leur seul échappatoire, c'est de faire des enfants. Ça marche partout dans le monde. C'est triste, cette misère sociale, ce manque d'éducation. C'est aussi un film, c'est ça, sur le manque d'éducation. Parce que voilà, les parents ont envie de les taper quand même, des moments, on leur dit.
Mais en même temps, il y a des très belles scènes de confrontation.
Ils sont victimes
aussi. Oui. Donc, voilà, donc ça s'appelle Capharnaüm de Nadine Labaki. C'est un film libanais, prix du jury au dernier festival de Cannes, qu'on vous conseille malgré tout. Un beau mélo politique avec des acteurs amateurs absolument formidables. Voilà, c'est un cinéma libanais que certains ont traité de misérabilisme, mais qu'il y a un moment, il faut arrêter de se voiler la face et de se cacher la réalité qu'il peut y avoir aussi en bas de Chine.
Ouais, c'est ça, et notamment au Liban. Donc, on va faire une brève rubrique énergie-environnement. On va commencer par un petit truc qui m'énerve tout le temps, la différence entre ce que je dis et ce que je fais. Alors, ça ne me concerne pas moi, mais ce que les gens disent et ce que les gens font, et notamment l'idée qu'on est contre quelque chose et que finalement, on ne fasse aucun rien pour être contre cette chose-là. L'exemple le plus flagrant, c'est aujourd'hui, un sondage Odoxa sur la question du nucléaire en France, et on apprend que 53 des personnes sont opposées à la production d'énergie par les centrales nucléaires. On se dit c'est cool, ces 53, ils se sont barrés d'EDF. s'ils sont contre. Ah non, pas du tout. Alors quand ils vont plus loin dans le sondage, ils se rendent compte qu'en fait les gens sont contre, mais pas totalement, qu'il faut laisser les choses se faire. Enfin, on se rend compte d'un truc. C'est qu'en fait, à partir du moment où les gens ne sont pas militants, les opinions politiques qu'ils ont, ils ne les mettent pas en œuvre. Et c'est ce qui ressort de ce sondage très fort, c'est que les gens, dans le principe, ils sont plutôt contre le nucléaire, mais ils font tout pour le nucléaire. En restant chez EDF, en votant pour des gouvernants pro-nucléaire, etc. Pourtant, il y aurait 53% des personnes qui sont contre l'énergie nucléaire. Et c'est toujours la limite de ça. Et finalement, quand on n'est pas militant, qu'on s'intéresse pas vraiment aux choses, on ne fait que subir, on n'est pas des vrais citoyens. Je suis désolé d'être méprisant, mais là, moi, je suis méprisant parce que j'en ai marre qu'on dise qu'on est contre le nucléaire et qu'on reste chez EDF et qu'on soutient toute la clique nucléo crates françaises, qu'on vote pour des gens qui sont pro-nucléaires, et c'est super énervant, et voilà, donc c'était mon coup de gueule aujourd'hui. Ce sondage m'a conforté dans le mépris que je peux avoir pour les gens qui vont pas jusqu'au bout et qui en ont les moyens, parce que changer d'entreprise, c'est facile. C'est pas un acte militant compliqué de changer d'entreprise, quitter EDF. Mais voilà. Bon, bref. Je reparle du nucléaire avec un petit mot qui est super triste, enfin, qui est un constat qui est plutôt négatif de la part de Pierre-Franck Chevet, qui est le président de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est l'autorité officielle française qui s'occupe de tout ce qui touche au nucléaire. Il a fait une conférence devant l'association des journalistes de l'environnement et des journalistes de l'énergie, et il donne son avis sur l'état du nucléaire en France. Donc je vais essayer d'aller vite parce qu'il reste pas beaucoup de temps. Donc il reparle des soudures défectueuses sur le circuit de l'EPR. Il explique en fait qu'il y a que d'après lui, il y a un gros souci de perte de connaissances au sein des acteurs du nucléaire. Perte de connaissances qui peut s'expliquer par différentes raisons, des raisons économiques et aussi des raisons historiques, puisqu'on est 30, 40 ans après le début du nucléaire, et les personnes qui ont bossé dedans commencent à partir à la retraite. Il y a une perte aussi de volonté d'aller jusqu'au bout, de maîtrise de l'outil technique, ce qu'il dénonce avec en rappelant ce qui s'est passé sur pour l'EPR, le couvercle de la cuve, que son autorité de sûreté nucléaire a validé, et qui pourtant est considérée comme plus fragile que ce qu'elle devrait être. Alors, il fait tout un truc aussi sur Orano. Donc Orano, il faut que je m'habitue, c'est le nouveau nom de Areva, sur notamment l'usine de retraitement de La Hague. Il explique par exemple, il est inquiet parce qu'il dit par exemple, le silo 130, que je connaissais pas, c'est une cuve en béton qui date des années 60, dans lequel il y a des déchets radioactifs qui sont noyés dans l'eau. Enfin, ça a pris feu, et du coup, ils ont noyé ce truc-là dans l'eau en 1981. Et depuis, il ne s'est rien passé. Donc le site, la cuve en béton s'abîme, elle va bientôt fuir, il y a des forts enjeux de sécurité, et lui, il constate, Orano, c'est-à-dire Areva, n'a toujours rien fait. Pourtant, il y a des injonctions de l'ASN. Donc il sort comme ça, tout un tas d'exemples, en montrant que, il est plutôt inquiet. Et finalement, la conclusion, faudrait peut-être sortir de tout ce truc-là, hein, parce que si même le président de l'autorité de sûreté nucléaire est inquiet sur la prolongation des centrales nucléaires, on rappelle que les centrales nucléaires étaient prévues pour fonctionner 40 ans, elles ont été construites pour fonctionner 40 ans, et que l'EDF veut les prolonger. Peut-être que, vu son inquiétude, vu les affaires qu'on a toutes les semaines, tous les mois, il faudrait peut-être en sortir. Voilà. Et puis la mauvaise nouvelle, c'est sur Fessenheim, puisque le Conseil d'État a annulé aujourd'hui le décret de la fermeture de la centrale nucléaire, pour une raison simple, c'est un vice de forme, parce que quand on a des gens incompétents, ça se voit, et là c'est Ségolène Royal qui était ministre de l'écologie, qui n'avait jamais été écolo, mais qui a été ministre de l'écologie quand même, et qui a fait un arrêté un décret pas légal. Donc c'est bon, ça n'empêche pas la fermeture, ils vont refaire un décret mais qui va respecter la loi. C'était juste pour situer un peu le ridicule des gens qui sont censés faire de l'écologie. T'as le temps, t'as encore 2 minutes.
Ouais, je vais terminer avec une petite information qui nous fait marrer, enfin moi, qui m'a beaucoup fait marrer. Ça a pris un an au Conseil supérieur de l'audiovisuel, appelé autrement le CSA, pour sanctionner Canal+. Un an, pas tout à fait, ça a pris 10 mois. Eh bien, parce que le 22 décembre 2017, sur Canal+, a été diffusé ce qu'on pourrait appeler un petit clip promotionnel, mais qui n'était pas annoncé comme tel. C'était une vidéo de 6 minutes 40 sur le Togo, hein, là où M. Bolloré a quelques investissements.
Celui qui possède Canal+.
Oui, il paraît qu'alors, enfin, si pas, c'est marrant parce qu'en fait, il paraît qu'en interne, personne n'était vraiment
au courant.
Alors. Bah, apparemment, il y a eu, ça a fait un petit peu à l'époque quand même quelques problèmes. Toujours est-il qu'il y avait une, c'est un truc très beau où on te vante le Togo pour dire que, alors attends que je te retrouve une phrase qui est sur la voix off, un pays stable et disposant d'infrastructures modernes, une politique ambitieuse de développement, paraît-il. Enfin, il y en a 6 minutes 40 comme ça. Le problème, c'est que ce petit truc a été diffusé sans générique de début, sans générique de fin, ce qui a fait un petit peu crisé le CSA, qui a estimé que c'était un drôle de petit programme et que...
On ne sait pas qui l'a fait, pourquoi,
le
comment...
Le public ne savait pas bien et que, surtout, à l'intérieur de ces images, c'était des images fournies par le gouvernement du Togo.
Ah bah tant qu'à faire, si tu veux faire la promotion du Togo, tu demandes au gouvernement.
Donc, alors, moi ce qui me fait marrer, donc il y a une sanction, comme je vous l'ai dit, donc on a pris hein, ça, hein, là, 10 mois, hein, ça a pris, c'est quand même incroyable, mais la sanction elle est plutôt, moi je trouve rigolote, puisque va devoir être lu à l'antenne par un présentateur en plateau, lu clairement, par un présentateur en plateau. Oui, la personne ne va pas pouvoir parler comme ça pour dire le truc. Donc ça va devoir être lu par un présentateur en plateau une fois hors week-end dans les programmes en clair du service de Canal+, dans les 8 jours suivant la notification de la décision du Conseil. Ce communiqué ne sera accompagné d'aucun commentaire écrit ou oral ni d'aucune image d'illustration. Et le communiqué, quelques secondes pour vous le dire, ça sera donc celui-ci. Après une instruction en conformité avec la procédure de sanction exigée par la loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel prescrit la lecture du communiqué. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel déplore que la société d'édition de Canal+ ait diffusé le 22 décembre 2017 sur le service Canal+, un programme qui présente de manière positive des projets de développement économique et fait un éloge appuyé de la politique économique menée par le gouvernement d'un État africain en mentionnant sa stabilité politique. Ce programme comportait plusieurs images issues de la communication institutionnelle de cet État. Aucun élément de contexte ni aucune information sur l'origine de ces images n'a été fournie aux téléspectateurs. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient à rappeler à la société d'édition Canal+ l'exigence d'honnêteté qui s'applique à l'ensemble de ses programmes. Elle implique que la chaîne éclaire suffisamment le téléspectateur sur la nature et l'objet des programmes diffusés.
Bon, ça fait quand même pas grand-chose hein, comme sanction.
Non, mais... C'est quand même une réaction. Alors en fait, de son côté, Canal+ avait dit qu'il ne voyait pas trop finalement où était le problème parce que bah, y avait pas eu d'audience. Donc finalement, ça n'avait gêné personne qu'ils avaient diffusé ça. Oh, les bonnes excuses. Regardez, le programme, il n'a pas marché. Personne ne l'a regardé. Donc en fait, on ne devrait pas être sanctionné. Bon, ben voilà, c'était juste parce que ça me fait marrer quand on attaque Bolloré, c'est tout.
Oui.
Voilà, ça a été juste pour finir là-dessus.
C'est la fin de ce Canu Info.
Eh ben oui.
On se retrouve la semaine prochaine, 19h20.
Oh.
Ou peut-être pas d'ailleurs, parce que c'est le premier. Enfin, je sais pas si on va faire le Canu Info.
Ouh, je sens que tu vas
c'est
faire
un
le
jour férié, moi. Je sais pas.
Je sens que tu vas le faire.
Bon, en tout cas, si on n'est pas là, vous inquiétez pas.
On reviendra.
On reviendra.
Bon, il y a une chance qu'on soit là quand même.
Et la semaine prochaine, et demain, le prochain Canu Info, normalement, 19h20.
Avec une autre équipe, le vendredi. Voilà. Ciao, ciao, bonne soirée à vous.
Et on vous laisse en compagnie des bandes continues. They get too hot for me to stick around.